Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant réalisé en collaboration avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé est préparé et animé par la pasteur Iris Reuter de la paroisse de la Fraternité. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
J'ouvre ce moment de culte avec un poème de Rose Ausländer, une poétesse juive qui a vécu de 1901 à 1988. Elle dit dans un de ses poèmes « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et Dieu nous donna la parole, et nous habitons la parole. La parole est notre rêve. Et le rêve est notre vie. » Chère auditrice, cher auditeur, que ce moment de culte nourrisse vos rêves par la parole, qu'il inspire votre vie et vous accorde un moment de légèreté grâce à la parole. Amen.
Le Seigneur est un.
commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ainsi commence l'évangile de Marc. Ce texte est proposé aux églises chrétiennes, qu'elles soient catholiques ou protestantes, pour les méditer et l'interpréter en ce deuxième dimanche de l'Avent. Ainsi, il sera beaucoup question de commencement dans ce temps de culte. Commencement. Pour moi, c'est un mot un peu magique. Il porte en lui une promesse, une ouverture, un souffle. Oui, ouvrons-nous à Dieu dans la prière. Notre Dieu, en ces dimanches où nous commençons encore une semaine nouvelle, nous venons à toi, te dire notre reconnaissance pour les mystères de la vie, mais tout d'abord commencer par les petites choses, humbles et familières. Merci pour le pain et notre nourriture de chaque jour. Merci pour le vent, la terre et la pluie, pour le rythme des saisons. Merci pour les couleurs et le soleil. Merci pour les hommes simples et sincères par qui rayonne ta lumière. Merci pour la musique et le silence. Merci pour la paix qui vient de toi. Loué sois-tu aujourd'hui et à jamais. Loué sois-tu, Dieu éternel, lumière de l'univers. Amen. Et nous chantons, ou écoutons plutôt, ce chant « Je te remercie, la vie ».
Je te remercie, la vie. Je te remercie, l'amour. Je te remercie, la lumière. Je te remercie, mon Dieu. Je te remercie, la vie. Je te remercie, l'amour. Je te remercie, la lumière. Je te remercie, mon Dieu. Je te remercie, la vie. Je te remercie, l'amour. Je te remercie, la lumière. Je te remercie, mon Dieu.
Mercedes d'Adémar, une autre poétesse, a écrit un texte qui s'intitule « Recommence ». Si tu es là et si la route te paraît longue, si tu t'aperçois que tu t'es trompé de chemin, ne te laisse pas couler au fil des jours et du temps. Recommence. Si la vie te semble trop absurde, si tu es déçu par trop de choses et trop de gens, ne cherche pas à comprendre pourquoi. Recommence. Si tu as essayé d'aimer et d'être utile, si tu as connu ta pauvreté et tes limites, ne laisse pas là une tâche à moitié faite. Recommence. Si les autres te regardent avec reproche, s'ils sont déçus par toi, irrités, ne te révolte pas. Ne leur demande rien. Recommence. Car l'arbre rebourgeonne en oubliant l'hiver. Car les rameaux fleuris sont demandés pourquoi. Car l'oiseau fait son nid sans songer à l'automne. Car la vie est espoir et recommencement.
Thank you.
Pour les lectures bibliques, deux textes nous sont proposés ce dimanche. Deux textes qui parlent de commencement. Les tout premiers versets de l'évangile de Marc, donc au premier chapitre, les versets 1 à 8, et puis le passage du prophète Ésaïe que Marc cite librement. Selon le livre d'Ésaïe au chapitre 40, les versets 3 à 8. Et avant de nous plonger dans la lecture de la Bible, je vous invite à la prière. Seigneur, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Rends-nous disponibles pour une recherche toujours plus profonde de ton évangile. Que le passé ne nous enferme pas, mais que ton esprit rende ta parole vivante aujourd'hui. Amen.
Commencement de la bonne nouvelle de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Dans le livre du prophète Ésaïe, il est écrit « Voici que j'envoie mon messager devant toi pour t'ouvrir le chemin. » C'est la voix d'un homme qui crie dans le désert. « Préparez le chemin du Seigneur, faites-lui des sentiers bien droits. » Jean parut alors dans le désert. Il baptisait et proclamait « Changez de vie, faites-vous baptiser et Dieu pardonnera vos péchés. » Tous les habitants de la région de la Judée et de Jérusalem venaient à sa rencontre. Ils reconnaissaient publiquement leurs péchés et Jean les baptisait dans le Jourdain. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il mangeait des sauterelles et du miel sauvage. Il proclamait « Quelqu'un qui est plus fort que moi vient après moi. Je ne suis pas digne de me baisser pour délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé dans l'eau, mais lui, il vous baptisera dans l'Esprit Saint. » J'entends une voix crier « Dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur. Dans cet espace aride, frayez une route pour notre Dieu. Que le niveau des vallées soit relevé, que les montagnes et les collines soient abaissées, que les reliefs soient changés en plaine et les hauteurs en large vallée. La gloire du Seigneur va être dévoilée, et tout le monde verra que la bouche du Seigneur a parlé. J'entends une voix qui dit « Fais une proclamation !» Mais je réponds « Laquelle ?» La voix reprend « Celle-ci. Le sort des humains ressemble à celui de l'herbe. Ils n'ont pas plus de vigueur que les fleurs des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le souffle du Seigneur est passé par là. C'est bien vrai, le peuple a la fragilité de l'herbe. Oui, l'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu demeure pour toujours. »
Commence le commencement. Et quand? Évidemment, vous allez me dire, le commencement, c'est bien au début de quelque chose. Mais ce qui commence, est-ce que ce n'est pas aussi la suite de ce qui a été avant? Le texte biblique aujourd'hui, c'est le commencement de l'évangile de Marc. Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu, il commence. C'est un drôle de commencement qu'il décrit là, parce que d'abord, au lieu de nous parler de Jésus, il nous parle du prophète Ésaïe, qui lui a parlé bien 600 ans auparavant. Et puis de Jean-Baptiste, ce drôle de prophète vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour de la taille, et qui fait un régime de miel et de criquets sauvages. Alors, quand est-ce que commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ ? Au moment où Marc l'écrit ? Eh bien, non, bien avant, même bien avant Jésus. C'est pour cela que Marc parle des prophètes de Jean-Baptiste. Il fallait tout ça, les prophètes, les Écritures et aussi Jean-Baptiste, pour que puisse commencer la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Finalement, dans notre vie, c'est un peu pareil. Il se passe des rencontres, des discussions, des événements, et puis, un jour, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui a commencé. Peut-être quelque chose de beau, un projet, une amitié, un approfondissement dans une relation, un chemin vers Dieu. Mais ça peut être aussi le commencement de la fin, la fissure dans un couple, une faille dans la confiance, une perte comme il y en a tant. Souvent, les commencements, c'est après coup qu'on les voit, avec un certain recul quand les effets se constatent. Alors, pour revenir à la question, quand commence la bonne nouvelle de Jésus-Christ ? Marc nous dit « bien avant lui ». Et il commence à nous dessiner en quelques traits le contexte, c'est-à-dire l'événement Jean-Baptiste, qui lui s'appuie de son côté sur les prophètes bien avant lui. Évidemment, chaque commencement est inscrit dans une histoire qui le précède. Ainsi, être chrétien, c'est être l'héritier d'une longue lignée de témoins, une lignée de témoins vivants, qui parle chacun, chacune à sa manière de l'événement de Jésus-Christ. Oui, il n'y a pas de vérité ultime ou vérité initiale de Jésus-Christ, parce que chaque évangile, chaque texte du Nouveau Testament le raconte à sa manière. En conséquence, ça veut dire aussi que jusqu'à aujourd'hui, chacun, chacune est amené à chercher ce que cette vérité signifie. En fait, dès le commencement, l'humain est mis à contribution dans sa relation à Dieu. Voilà quelque chose qui m'a parlé dans ces quelques lignes du commencement de l'Évangile. Pas de vérité religieuse à gober, mais bien une relation avec le Dieu vivant à chercher. Être chrétien, être chercheur, de génération en génération, de relais en relais. Marc met au début de son évangile un relais bien particulier. Jean, dit aussi Jean-Baptiste ou Jean le baptiseur, peu importe. Un personnage radical, un personnage bien différent de ce Jésus qu'il précède. Jean-Baptiste prêche dans le désert. Jésus va à la rencontre des gens là où ils vivent. Jean-Baptiste est un ascète qui se nourrit de miel et des criquets sauvages. Jésus mange à tous les tables. On le traite même de glouton et d'ivrogne. Ainsi, on pourrait encore relever quelques différences. Mais ce qui est intéressant là, c'est que la radicalité de Jean-Baptiste attire les foules. Bien que Marc exagère certainement un peu quand il dit « tous les habitants de Jérusalem » et de la Judée accourait vers lui. Jésus, au début, allait à la pêche aux disciples. Il était entouré d'une poignée de gens seulement. Ça donne quand même à penser. De tout temps, les humains paraissent plus sensibles aux prédications radicales qu'aux discours nuancés. Ça n'a pas changé beaucoup aujourd'hui. Mais Jean-Baptiste ne se prend pas pour un prédicateur à succès. Il reste un témoin véritable dans le sens qu'il reste humble. il ne met pas sa personne en avant, mais il garde conscience qu'il est un relais qui prépare le chemin. Il est dit lui-même, « Quelqu'un qui est plus fort que moi vient après moi. » J'aime bien cette idée de relais. Être un relais qui fait le lien, qui relie, qui met en relation. Jean-Baptiste, lui, était un relais entre les prophètes avant lui et Jésus après lui. Écoutez, encore une fois, ces paroles du prophète Ésaïe sur lesquelles il s'appuie. « Dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur, dans cet espace aride, préparez une route pour notre Dieu. » C'est un passage qu'on lit et chante souvent pendant ce temps de l'Avent. D'ailleurs, on vous le proposera tout à l'heure. Aube nouvelle, il faut préparer la route au Seigneur. Mais après cet appel de préparer la route au Seigneur, Ésaïe continue avec une déclaration. Tout est chair et herbe. Tout son éclat est comme la fleur des champs. Elle se dessèche, elle se fane. Mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. Là aussi, il est question de relais, mais dans la perspective de Dieu cette fois-ci. Le relais humain dure un temps très éphémère, comme la fleur des champs qui se dessèche, qui se fane. Oui, effectivement, le relais a son importance, mais pour un temps seulement, pas pour toujours. Cette idée me donne la confiance, parce qu'elle dit « La parole de Dieu subsistera toujours, comme moi je ne serai plus. » Être relais, c'est être justement à sa juste place. Chacun, chacune est important, car il est relais, mais chacun et chacune passe, car éphémère. Et d'autres prendront le relais pour faire retentir la parole de vie.
Thank you.
je reviens encore une fois à ce point que je relevais il y a quelques minutes, quand j'ai dit que Jean-Baptiste était un personnage bien différent de ce Jésus qu'il précède, qu'il annonce. En principe, je trouve qu'on aurait peut-être tendance à penser que le précurseur ressemblerait à celui qu'il annonce. Mais dans le cas de Jean-Baptiste et de Jésus, ce n'est pas le cas, ni pour la manière de se vêtir ou de se nourrir, ni pour le message. En fait, Jean-Baptiste prêche un baptême de repentance. Ça veut dire qu'il relève le fossé radical qui sépare l'humain de Dieu. On pourrait dire qu'il met les choses à plat. Et j'aurais bien envie de lire aussi ce passage du prophète Ésaïe dans ce sens-là, qu'il faut relever le niveau des vallées et abaisser les collines et les montagnes. Ainsi, ces paroles deviennent symboles pour le fait de mettre les choses à plat et dire ainsi que l'humain est radicalement séparé de Dieu. Selon Marc, Jean-Baptiste prépare le chemin pour la bonne nouvelle vécue, annoncée et incarnée par Jésus. Jésus, en hébreu, Yeshua, c'est celui qui sauve. Yeshua, en fait, veut dire en hébreu, Dieu sauve. Quel programme! Je n'aurais pas la prétention ce matin de faire le tour de ce mot sauver ou encore salut. C'est un mot qui est surchargé et à la fois peu audible aujourd'hui, car il fait partie de ces grands mots de la foi qu'on doit retranscrire en français courant. Chose qu'on a essayé de faire lors de notre dernière rencontre au SPICAFÉ. Le SPICAFÉ, c'est en fait une rencontre mensuelle autour d'un apéro, autour des questions spirituelles dans un bar à Nîmes, le Délicafé à la place Bellecroix, pour être précis. C'est un apéro ouvert auquel viennent des chercheurs de vérité et de sens de tout horizon, croyants, non-croyants, agnostiques. Et lors de notre dernière rencontre, qui date maintenant du mois d'octobre, on se réunit autour de la question « Sauver, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et je vous livre seulement aujourd'hui quelques petites réflexions. « Être sauvé », a dit une personne, « ça vient de l'extérieur, d'une main tendue, comme une bouée. C'est trouver une ouverture en face de toi, ne pas se cogner tout le temps à tes murs. Être sauvé, c'est être accueilli, sorti du désespoir. » Et cette personne continue. La sensation de m'être senti accueilli ici, ça a été un peu comme me sentir sauvé. Une autre a dit, moi, ce que je trouve intéressant dans le fait d'être sauvé, c'est le fait d'être l'objet d'un amour gratuit, un cadeau qui ne peut que faire du bien. C'est être sauvé de l'absurde, du non-sens, sauvé d'une solitude absolue. Les personnes qui ont prononcé ces mots se disent non-croyants d'ailleurs, alors que leurs mots sont pour moi comme des relais d'évangile. Ce soir-là, au SPICAFÉ, nous avons parlé plus d'une heure sur le sens de ce que c'est d'être sauvé ou ce qui nous sauve dans notre existence. Oui, je crois effectivement que ces temps de désert que nous vivons actuellement, individuellement et collectivement, sont propices à une prise de conscience sur ce qui nous sauve. Oui, et je crois que nous sommes actuellement encore dans une histoire de commencement. Commencement nouveau d'une histoire ancienne. Et cette histoire-là, elle passe par des relais. Par toi ou par vous. Par moi, par nous. Amen. C'est dans le désert que nous avons soif. C'est dans la nuit que nous cherchons la lumière. C'est quand nous sommes perdus que nous prenons la main qui se tend. Ce poème de Paul Éluard que je vais vous lire y fait écho. Je l'accueille comme une confession de foi. La nuit n'est jamais complète. Il y a toujours, puisque je l'ai dit, puisque je l'affirme, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée. Il y a toujours un rêve qui veille, désir à combler, faim à satisfaire, un cœur généreux, une main tendue, une main ouverte, des yeux attentifs, une vie. La vie à se partager. Alors peut-être que vous en avez déjà entendu parler, la grande kermesse de Nîmes qui a son anniversaire des 90 ans cette année se réinvente, et vu les circonstances sanitaires, et se réinvente cette année pour quand même vous pouvoir vous faire bénéficier de tous les bons produits faits maison qui seront donc en vente à la Maison du Protestantisme et au point de retrait du Mas des Abeilles, du Temple du Mas des Abeilles et du Temple de la Fraternité. Il y a du vin d'orange, des gâteaux alsaciens, des biscuits secs, des gourmandises, des confitures, du limoncello, du vin d'orange, des oreillettes et encore plein d'autres choses que vous pouvez commander à la Maison du Protestantisme par téléphone. Je vous donne le numéro au 04 66 67 97 40 et que vous pouvez aussi retirer soit à la Maison du Protestantisme ou au Mas des Abeilles ou à la Fraternité. Je vous invite à la prière d'intercession. En lien les uns avec les autres, bien que chacun chez soi derrière sa radio, nous te confions ceux et celles qui ont besoin qu'on se souvienne d'eux ce matin. Portons dans notre prière ceux et celles qui ont retenu notre attention lors d'une conversation ces jours-ci. Nous prions pour ceux et celles qui sont dans l'attente d'un commencement ou d'une fin, d'une naissance ou d'un décès, d'une nouvelle qui changera leur vie. Nous demandons ta bénédiction pour ceux et celles qui sont à l'hôpital, soignants ou soignés, ceux et celles qui sont enfermés, qui ont besoin d'une main qui se tend vers eux. Nous te confions ceux et celles qui connaissent des tensions ou des ruptures dans leur famille, leur couple ou leurs relations proches. Et puis ceux qui inlassablement tentent de réconcilier, de construire la paix, de ne pas se laisser happer par les discours de haine, par la mauvaise foi, mais qui vont au-delà des difficultés que créent les différences pour travailler patiemment ensemble. Pour chaque personne que nous t'avons confiée, mais aussi pour ceux et celles que nous portons en notre prière intime, nous demandons ton soutien, ta lumière et ta force, et que nous puissions en être non seulement les bénéficiaires, mais aussi les relais. Et je vous invite à prier ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous ai cité tout à l'heure quelques citations de ces personnes réunies pour l'apéro au Spi Café autour de la question « Être sauvé, qu'est-ce que ça veut dire ?» Et pour vous envoyer dans cette semaine, je vous fais part d'une dernière citation. « Être sauvé, dit une personne, c'est être comme un arbre planté près d'un cours d'eau. C'est me laisser transplanter dans un endroit où mes racines pourront puiser des choses qui vont me nourrir, me rendre plus vivante. C'est puiser à la source. » Que Dieu vous bénisse ainsi et vous donne de sa vie, comme une source transparente, comme une rivière en mouvement, comme un souffle de printemps, comme une respiration qui vous ouvre encore et encore aux merveilles de la vie. Amen.
Voici maintenant une annonce. Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir du site internet de cette église, nimes-église-protestante-unie.fr, ou en envoyant un chèque à l'Église protestante unie de Nîmes, à la Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé et animé par la pasteur Iris Reuter de la paroisse de la Fraternité de l'Église protestante unie de Nîmes. Restez à notre écoute pour la suite de nos émissions.